professeur Thomas, membre et étudiant du département de l'époque moderne. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes ici pour écouter une présentation de professeur Carlos Barros. Est-il possible de faire une histoire orale dans le Moyen-Âge et les temps modernes? Professeur Barros est associé depuis la fin des années 80 avec l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il a été professeur titulaire en histoire médiévale, chef du groupe de recherche dans le domaine de l'historiographie et directeur du programme postdoctoral Histoire, théorie et méthode des sciences humaines et des sciences sociales. Il est connu pour deux thèmes de recherche en particulier. Au premier, pour la révolte sociale des petits frères ou Irmandinos des années 1467 à 1469 en Galice, et d'autre part pour ses études historiographiques. Le premier sujet, la révolte des petits frères, une révolte de la Sainte Confrérie du Royaume de Galice qui avait pour but de faire régner la paix et la justice, qui était née des sentiments d'injustice excessive commis par la Seigneurie, a été le sujet de plusieurs des publications du professeur Barros. Il a rédigé sa thèse de doctorat sur la révolte en faisant un travail novateur qui utilisait des sources historiques pour reconstruire l'histoire orale des petits frères sur leur révolte. Et le professeur a écrit sur la Sainte Confrérie et sur les mentalités des Irmandinos à plusieurs reprises, en 1985 et notamment encore en 2009, avec la monographie Torres, Varas et Demos aux Irmandinos d'Arria de Muros Noia. Le deuxième domaine de spécialisation de professeur Barros est l'historiographie. Et déjà au début de sa vie académique, il a fondé le réseau Historia a Debate, un réseau international des historiens dédié d'une part à fortifier la communication entre ses membres, quelle que soit leur spécialité, nationalité ou idéologie. Et d'autre part, Historia a Debate fonctionne comme un forum de débat sur l'historiographie, la méthodologie et la théorie de l'histoire. Et cette tendance à ouverture et discussion démocratique est caractéristique de professeur Barros, qui, avant de commencer sa carrière universitaire, a vécu une vie d'engagement social et politique actif, jouant des rôles dans plusieurs moments clés dans le transfert du régime dictatorial à un régime démocratique dans Vigo, la cité la plus grande de Galice. Il a en outre cofondé le Parti communiste de Galice et les commissions paysannes de Ourense, une union souterraine qui a été brutalement réprimée sous le régime dictatorial. Et la présentation de professeur Barros d'aujourd'hui porte en elle les deux thèmes de spécialisation du professeur, la discussion sur la méthodologie et l'histoire des Irmandinos. Nous sommes tout curieux de savoir ce que vous nous apprendrez, professeur. Donc, la parole est à vous.
Merci, Tavea, pour votre et pour ta présentation. C'est la présentation plus complète que m'en fait jamais. Merci à vous, à toi. Alors, je vais parler sur est-il possible de faire une histoire orale dans le Moyen-Âge et les temps modernes. En premier lieu, je vais remercier à Werner Thomas, mon collègue, mon ami, et à la Université catholique de Louvain pour l'invitation et particulièrement à Tavea, Lisa et Mattia, qu'ils ont fait un bon travail pour organiser cet séminaire. Qu'est-ce que c'est l'histoire orale? Simplement utiliser des témoignages oraux pour faire l'histoire. Virtu des sources orales par comparaison des sources écrites. Tout d'abord, les sources orales sont plus directes que les sources écrites, sont plus spontanées que les sources écrites, et surtout, les sources orales, ils sont plus populaire que les sources écrites. Les sources orales sont en somme une expression meilleure de la majorité de toutes les sociétés historiques jusqu'à le XXe siècle. Il faut rappeler que la majorité des sociétés historiques sont analphabètes. C'est pour ça l'importance de la possibilité d'utiliser la méthode de l'histoire orale pour l'époque historique antérieure au XXe siècle. Et en plus, il faut dire que les sources orales, ils valent pour faire d'histoire des mentalités. Bon, et les sources orales supposent un savoir différent, bien sûr qui est complémentaire, des sources écrites. Tout nous savons que le positivisme a imposé le monopole des sources écrites dans la démarche historique pour faire un type d'histoire événementielle, historisante, comme on dit Lucien Febvre, descriptif, pas explicatif, pour obtenir traditionnellement des dates et des grands noms. Bon, et des batailles aussi, naturellement. Et on critique parfois à source orale pour la partialité des sources, non? Bon, pas plus que les sources écrites. À mon avis, toutes les sources sont partielles. Mais je crois que les sources écrites sont plus partielles que les sources orales. Parce qu'il y a une médiation majeure dans les sources écrites qui ont été sacralisées pour les vieux positivismes du XIXe siècle. L'histoire orale est née aux États-Unis au début du XXe siècle pour chercher les origines de la population afro-américaine. C'est-à-dire, la histoire orale a une histoire dans la historiographie actuelle d'un siècle, pas mal. Un siècle, pas mal. La histoire orale, c'était une autre histoire du XXe siècle. Et une histoire faite d'en bas, pas élitiste. C'est pour ça que nous sommes partisans, que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui faire histoire orale pour savoir plus de la culture populaire, de la majorité de la société, parce que nous savons que l'histoire ne le fait pas seulement les grands hommes, comme voulait Bonrank, par exemple. Bon. Et l'histoire orale, qu'est-ce qu'il a fait? Surtout, on a produit archives orales jusqu'à aujourd'hui. c'est-à-dire enregistrer et transcrire l'entrevue. Seulement, c'est-à-dire, l'histoire orale est seulement une technique plus pour faire l'histoire, je ne crois pas. Je crois que l'histoire orale, c'est une autre démarche historiographique, une autre épistémologie historique. Pas seulement pour le XXIe siècle, en réalité, pour toutes les époques historiques. À nous, nous intéresse spécialement le Moyen-Âge et le temps moderne, simplement parce que je travaillais pour le Moyen-Âge et le temps moderne. Mon expérience de recherche est sur l'histoire orale. Il y a une trentaine d'années, ce fait, Tabea l'a raconté, j'ai fait la thèse de doctorat à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle sur l'histoire orale des Irmandiños. Bon, elle dit les petits frères, ça va, ça. Mais le nom dans la historiographie galicienne, c'est Irmandiños, que c'est un mot, une invention de la historiographie nationaliste galicienne du début du XXe siècle. Alors, c'est pour ça que nous disons Irmandiños. Mais dans la documentation de l'époque, on dit la sainte fraternité du royaume de Galice. Ils utilisent surtout le mot frère pour parler d'eux-mêmes. Mais bon, à l'époque contemporaine, nous disons Irmandiños. Et Tabea, il dit le petit frère. Oui, ça va. C'est la même chose. Bon, ce fait est la thèse de doctorat sur l'histoire orale des Irmandiños, 1467 jusqu'à 1674. C'est pour ça que je disais que je parlais d'une histoire médiévale et au moins temps moderne, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Bon, les Irmandiños, ils ont fait une révolte sociale contre la haute noblesse du royaume de Galice. Ils sont deux ans au pouvoir entre 1466 et 1469. Et 60 ans après, a lieu le procès Tabera Fonseca. Ils sont deux archevêques, Fonseca de Saint-Jacques-de-Compostelle, Fonseca qui sort et Tabera qui entre. Et ils disputent sur les forteresses démolies pour les petits frères, pour les Irmandiños, 60 ans avant. Bon, il faut dire que cette forteresse jamais sont reconstruites. La grande majorité des forteresses démolies pour les Irmandiños, jamais sont reconstruites. C'est pour ça que l'archevêque qui sortent, elles demandent à... Pardon, je dis mal. L'archevêque qui entre le demande à l'archevêque qui sort d'argent pour parce que le patrimoine de l'Église, il y a eu des pertes par l'action de Sigmund de Nyons, pour abattre les forteresses qui étaient de l'église de Compostelle. Non? Bon. 204. Témoins déclarent. La majorité sont témoins populaires, directs, parce qu'ils sont protagonistes de la révolte ou témoins oculaires. Mon approche est séparée. Dans le procès Tavera Fonseca, les tests administratifs, les questionnaires, enfin tous les travaux des notaires, des juges, des points de vue de la judiciaire, séparer les tests de déclarations verbales, traitées pour moi comme des entrevues orales transcrites, comme aujourd'hui même, presque. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait l'historien oral ? Fait d'entrevues et après, il doit faire la transcription pour travailler sur des tests écrits. D'accord? Bon, dans ce cas, nous avons des tests écrits et nous devons séparer la évidence orale, c'est-à-dire les déclarations, de la partie tout à fait écrit pour le tribunal normalement. La question de la crédibilité de la source orale. Se fait l'analyse critique du procès Tavera Fonseca. J'ai trouvé qu'il avait à ce moment-là greffier très bon. On dit greffier, non? Oui. Comme notaire, en espagnol escribano, non? Bon, d'accord. Il se trouvait de bons greffiers qu'ils font une transcription complète de chaque déclaration. Spectaculaire pour moi, hein? Je veux dire pourquoi? Parce qu'à la fois, ils font la traduction simultanée. Bon. Et alors, ils font les graphies, ils font la transcription complète, littérale, des déclarations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résumé. Parfois, dans les procès, il y a les notaires, bon, ils font une sorte de résumé, de déclarations orales. Non, dans ce cas, ils sont transcriptions complètes. Ils font aussi, c'est pour ça que je disais que c'est extraordinaire, et ils font à la fois la traduction simultanée, assez acceptable à mon avis, du galicien ou espagnol. À cette époque-là, nous pouvons dire le castillan. Bon, parce que à ce moment, la culture populaire en Galice s'exprime en galicien, normalement. Les castillans, posteriorement l'espagnol, non? Les castillans, c'était une langue externe, étrangère, non? Et alors, les greffiers, les notaires, ils sont galiciens normalement qui connaissent l'espagnol. Ils sont bilingues. Non. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que dans les tests transcrits de déclaration orale, transcrite au espagnol, en espagnol, dans la langue espagnole, nous trouvons beaucoup d'interpolation de mots et d'expressions galiciennes. Bien sûr qu'il y a une certaine perte de contenu, parce que s'il y a un changement de langue, et alors, même si la transcription est complète, elle est bien faite, il y a une perte d'information, mais pour notre objet, c'est suffisante. La traduction et transcription qu'ont fait les greffiers au commencement, au début de ce 7e siècle, et pas seulement à Santiago de Compostela, partout le royaume de Galice. Le procès est arbitral, il faut dire. Les pressions des juges sur les témoins, ils sont compensés. Pourquoi? Parce que chaque partie du tribunal choisit ses témoins. C'est pour ça qu'il y a un certain équilibre. Et la partie de Fonseca, il choisit 91 témoins. Et la partie de Tavera, il choisit partout, toute la Galice aussi, 113 témoins. Plus ou moins, même les mêmes nombres, numéros vont un peu plus à faveur de Tavera. On s'est trouvé aussi dans cette déclaration individuelle, s'est trouvé des discours communs, collectifs, mémoriels sur la grande révolte. C'est-à-dire, il vient à dire presque la même information, parce qu'il y a une mémoire collective, non? Il y a à peu près 2 ou 3 attitudes entre les témoins sur la révolte, attitudes très différenciées, différenciées, pour, contre et neutre par rapport à l'égard de la révolte de 1467. Il y a alors deux partialités très claires, pour et contre la sainte fraternité. Mais, attention, la plupart des témoins sont 60 ans après favorables aux petits frères, aux Irmandinos. C'est une donnée très importante, que ce serait impossible de le savoir sans les sources orales. Parce que les sources écrites sont majoritairement contraires aux Irmandinos. C'est-à-dire, nous avons obtenu une archive orale assez fiable. L'échantillon est assez représentatif de la société, de la géographie de la Galice irmandina pendant la révolte et après la révolte. Entre 1467 et 1627, que c'est le moment où se font les entrevues. Oui. Entre 1467 et 1527, le temps passé n'est pas bien grand. Nous trouvons que 60 ans après, les traditions orales sur la révolte sont très vivantes. Certainement, il y a quelques différences entre l'année 67 et l'année 27 de siècles qui suivent, non? Mais ils sont des petites différences qu'il faut rendre compte d'elles, mais qui n'y altèrent. Il n'y a pas une grande différence pour obtenir des grands problèmes, pour obtenir des conclusions. 60 ans, il y a beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? C'est pour la Belgique, c'est comme si nous parlons des années, des années de la lutte pour l'indépendance du Congo. Est-ce qu'il y a dans cette génération je veux dire que opposé Tavera Fonseca, l'âge moyen des témoins est 74 ans. Je reviens à l'exemple antérieur, à l'exemple Vélez. Une personne aujourd'hui de 74 ans se rappelle de Lumumba, de la mort de Lumumba? Je crois que oui, non? C'est pour ça que se dit que les traditions orales sur les Irmandinos sont très vivantes 60 ans après. Bon, si nous mettons en valeur l'évidence orale, on produit de nouvelles connaissances historiques. Je pense ça. Et c'est mon expérience aussi. Si nous traitons sur même niveau épistémologique les sources orales que les sources écrites, on change les résultats connus, les données que nous connaissons sur, dans ce cas, la révolte irmandina. Certes, nous aurons de nouvelles données pour expliquer l'histoire de la grande révolte à la fin du XVe siècle en Galice. Avec une démarche traditionnelle, il y a quelqu'un qui a profité, le procès Tavera Fonseca, auparavant, pour savoir plus de la révolte irmandina. Il s'appelle José Couselo Bouzas. Il a écrit dans l'année 1926 un bouquin, La guerra irmandina, siglo XV, mais il utilise seulement le procès, les déclarations verbales pour obtenir des noms, des lieux, des noms des forteresses, des batailles. Curieusement, la plupart des données connues sur la révolte birmandine viennent des procès Tavera Fonseca. C'est un peu paradoxal, parce que Couselo Bouzas, il applique une vieille approche positiviste à une nouvelle source orale écrite. Il manque dans cette, dans ces auteurs, et c'est les premiers historiens qui écrit sur le procès de Tavera Fonseca, il manque les contextes mentaux de déclarations, mais il faut reconnaître un problème connu des traditions orales et de la mémoire. Est-ce que il n'y a pas de fiabilité sur les dates, en espagnol la fecha? C'est ce problème. C'est pour ça que je crois que les dates qui apparaissent au procès Tavera Fonseca, ils ne sont pas crédibles. Pour fixer les ans, et les dates, les mois, tout ça, de fait, nous devons utiliser la documentation contemporaine de Sirmandiños, surtout les documents de la propre sainte fraternité du royaume de Galicia. Ils sont très rares, ces documents, contemporains, ces documents de Sirmandiños, mais en tout cas, nous devons les utiliser pour fixer les dates. Parce que Georges Duby, il a écrit que l'homme médiéval ne savait pas compter. Vous savez, non? Et alors, par exemple, au procès Tavera Fonseca, beaucoup de témoins disent avoir l'âge de la révolte, 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas sa propre âge. C'est pour ça qu'il y a un problème de date. Pour le reste, les noms, les forteresses, les noms de seigneurs, les noms de Sirmandiños, de tout ça, ils sont très précis et très fiables, non? Moins les dates. Bon, grâce à la nouvelle approche que nous avons obtenu de nouveaux résultats, de nouveaux données sur la révolte irmandiña. En premier lieu, un étonnant sentiment de victoire par la majorité des témoins. Au contraire, du point de vue de la noblesse, surtout comme nous lisons dans les nobiliaires, par exemple, dans les nobiliaires de Vasco, de Aponte, plus ou moins contemporains du procès Tavera Fonseca. Ils sont très contre, très contre la révolte irmandiña pour un problème de classe sociale, évidemment, non? Et malheureusement, la historiographie officielle de Galice, pendant beaucoup d'années, il s'est informé sur la révolte irmandinienne à partir des nobilières. Alors, là, une donnée très largement compartie est-ce que la révolte irmandine finit dans une grande défaite. N'est pas vrai. Les irmandinos qui parlent dans les procès Tavera Fonseca, ils disent tout le contraire, non? Ils disent tout le contraire. Même cette mentalité de victoire, 60 ans après, explique d'autres données que nous avons obtenues au procès Tavera Fonseca. Par exemple, il n'y a pas de répression de la révolte après la révolte. Rien de rien sur la répression. Il n'y a pas de nom ni de nom de personnes, des irmandinos, qu'ils sont représaliés pour les seigneurs. C'est-à-dire, ça confirme que nous sommes face à que les irmandinos, ils ont gagné. Et c'est ça, il n'y a pas de répression après. Et il y a aussi, dans le procès Tavera Fonseca, une longue liste de forteresses démolies. Plus de 150, pratiquement toutes les forteresses du royaume de Galice à la fin du Moyen Âge. J'ai trouvé aussi une donnée aussi étonnante. Le protagonisme populaire dans la révolte, surtout dans la phase insurrectionnelle, très controversée pour la histoire traditionnelle galicienne, parce que la histoire traditionnelle espagnole ne parle jamais de la révolte irmandine, ne parle jamais, presque jamais, de la histoire de Galice ou de la histoire de Catalogne ou de la histoire des Pays-Bas. Oui, c'est un problème de centralisme politique qui apparaît también dans la historiographie à partir du 19e siècle. Bon. Protagonisme populaire. En tout cas, il faut dire que le protagonisme social et culturel dans la révolte, c'est pluriel. Participe aussi d'autres secteurs sociaux de l'Église, des partis de l'Église, des partis de la petite et de la moyenne noblesse, et même il y a l'appui du roi Henri IV. Dans ce moment, il y a une guerre civile pour la couronne de Castille et la Sainte Fraternité du Royaume de Galice appuie à roi légitime Henri IV. C'est pour ça qu'Henri IV appuie aussi à la révolte irmandinienne contre une haute noblesse qui, en général, était contre le propre roi légitime Henri IV dans la guerre civile pour la couronne de Castille. Bon, la majorité des postes dans la Santa Fraternité, c'est des maires, des députés principalement, sont populaires, c'est-à-dire paysans, artisans, pêcheurs, et les dirigeants militaires de la révolte, la majorité chevalière bonne de la petite et de la petite et de la moyenne noblesse, et ils sont les chefs militaires, sa spécialité c'est la guerre, non, c'est pour ça qu'ils s'appuient à la Sainte Fraternité avec la organisant dans la direction des armées irmandignes. Mais, curieusement, ils apparaissent uniquement dans les batailles, surtout à la fin de la révolte. Jamais dans les assauts, les sièges aux forteresses qui sont dirigés pour les maires de la Sainte Fraternité, qu'ils sont de bourgeois, d'artisans, de paysans, qu'ils sont généralement populaires. Et c'est très important ça, parce que les dirigeants de l'insurrection militaire irmandinha, ils sont populaires, non? Je peux le dire d'autre façon. C'est-à-dire que la direction politique de la révolte commande sur la direction militaire des batailles. Parce que le problème des batailles, c'est qu'il faut savoir, de la guerre, non? De la guerre, c'est pour ça que les irmandignos utilisent pour ça les chevaliers qui étaient avec eux. Bon, les facteurs décisifs de l'éclatement irmandigno, c'est la mentalité de révolte, c'est une autre découverte, non? Pourquoi ? Parce que c'est la première instance qui provoque les soulèvements armés. Pas l'économie, pas la société. C'est la première instance, c'est-à-dire la mentalité affecte à travers des éléments moteurs, surtout la mentalité justicière, mais aussi la conscience antiseigneurielle, aussi la haine contre les fureurs, contre les forteresses, et il y a en plus les éléments légitimataires, le roi et Dieu. Les irmandignos, ils prônent que le rier les appuie, et il y a une base documentelle pour dire ça, non? Et ils vont prendre aussi que la révolte est sainte, c'est-à-dire c'est Dieu qui appuie aussi la révolte contre les chevaliers qui sont pécheurs, non? Pécadores, comme on dit. Pécheurs. Il y a des curés irmandignos qui l'ont écrit sur ça, par exemple, Ruy Vázquez, qui l'a dit, que les chevaliers, ils sont mauvais, et Dieu les a châtiés avec la sainte fraternité. Ces facteurs légitimatoires, ils sont très présents dans le procès Tavera Fonseca. Mais même aussi pendant la révolte, parce que quand ils font les assauts à Fortaleza, les cris, c'est « Vive le roi !»« Vive le roi !» C'est-à-dire le roi est avec nous. Il nous appuie. Et c'est pour ça que nous... Bon, et le roi, il est loin, il appuie en effet à la révolte, mais après beaucoup de doutes sur ça, pour le faire ou non. Politiquement, il est intéressé dans le succès de la révolte, mais c'était une révolte anti-seigneuriale, et il avait beaucoup de doutes, mais finalement, il appuie. C'est rechercher aussi la mentalité de la contre-révolte, mais là, opposé, Savera Fonseca, mais la mentalité populaire contre les petits frères, qui est plus intéressant que la mentalité contraire écrite pour la noblesse, parce que la noblesse est historiquement et contre les Sirmans d'Union, non, parce que c'était une révolution antiseigneuriale, non. Mais dans les nobilières, qu'est-ce qu'il dit sur les Sirmans d'Union? C'est normalement insulte, violence, des gens vils, racaille, la racaille irmandinia, même. D'autre côté, les témoins populaires contre les Sirmans d'Union, normalement, ils sont des vassaux proches au seigneur, non? Ils disent, par exemple, qu'ils ne disent pas sainte fraternité, il dit la fraternité fusquenja, c'est très difficile, il n'y a pas même traduction au espagnol du mot fusquenja, vient de Fusco, qui fait dire quelque chose obscur, ténébreux, comme ça, c'est plus poli, plus subtil que les insultes des sources nobilières, vilains, de sens vil, la racaille, irmandigna. Je trouvais aussi, ça me plaît, donner sur l'identité de la nationalité galicienne qui est née au Moyen-Âge, autour de la langue galicienne, que c'est une langue romane, donc, qui est née au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, non? La Galice médiévale est unilingue. On dit en français, si? Unilingue, non? Unilingue galicien seulement. Au principe, ils parlent en galicien, et les clercs écrivent en latin. Et à la fin, ils parlent galicien et quelques notaires écrivent en castillan. Mais c'est à la fin du Moyen. Ça, à la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire que le sujet de la révolte, c'est la Galice. Une définition très répétée au procès Tavera Fonseca, c'est dire de Sirmans d'Union. Les soulèvements des gens communs du royaume de Galice. Gens communs du royaume de Galice. Le protagonisme, c'est pour la Galice comme royaume, mais c'est un protagonisme à nouveau populaire, non? Le royaume de Galice, à ce moment-là, faisait partie de la couronne de Castille. Les Sirmans d'Union organisent un pouvoir presque indépendant pendant la révolte. Et ils font la première Junta de Galicia. Aujourd'hui, Galice est une communauté autonome en Espagne et il y a un conseil de gouvernement. Et le conseil de gouvernement, aujourd'hui, il s'appelle de la même façon qu'il y a cinq siècles, pendant la révolte irmandine, que c'est la première fois qu'apparaît pour l'institution principale des Irmandiños, qui s'appelle la Junta General del Reino de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. La Junta General de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, es decir, le Conseil General de la Santa Fraternidad de Royaume de Galicia. De Galicia. Bon, je répète, pratiquement. Il avait une guerre civile à Castille et les Irmandiños ils profitent pour organiser son pouvoir autonome presque indépendant de la couronne de Castille. Avec l'appui du roi, qu'il n'a fait pas aussi des pouvoirs, pratiquement, pendant la guerre civile. C'est pour ça qu'ils ont profité de la conjoncture politique. Pour finir, nous trouvons aussi une nouvelle vision de la transition du Moyen-Âge au temps moderne, avec une participation populaire très importante. C'est-à-dire que la transition du Moyen-Âge au temps moderne, en Galice, n'est pas seulement question des élites, c'est participe toute la société. Enfin, une manière de faire histoire globale, c'est combinant et contrastant sources écrites avec sources orales. Elles sont à la fois complémentaires et opposées. Le procès Tavera et Fonseca, c'est en effet un document excepcional. Il y a quelqu'un qui parfois me dit ça. Alors, Carlos, est-ce que tu as travaillé sur un document excepcional? Sincèrement, je crois que n'est-ce pas les documents, est-ce que c'est appliquer une approche exceptionnelle par rapport à la historiographie, traditionnelle. Parce que on ne trouve pas ce que l'on ne cherche pas. Comment faire histoire orale sur le Moyen-Âge et temps moderne? Quelles sources concrètes pouvons-nous utiliser? La réponse principale, surtout documentation judiciaire. Les témoignages oraux sont preuve légale au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages oraux écrits. Il faut les utiliser pour faire histoire orale médiévale ou moderne. Les témoignages oraux au Moyen-Âge et au temps moderne décident la vérité judiciaire. Ils sont très importants. C'est pour ça que ce n'est pas difficile de les trouver. Encore aujourd'hui, les témoins oraux, c'est important pour les juges. Pendant le Moyen-Âge et le temps moderne, était encore plus important. C'est pour ça que ce n'est pas difficile de les trouver. Bon, il y a et aussi d'autres documentations d'archives, des informations, des enquêtes diverses, de type judiciaire normalement. Il y a aussi des sources narratives et nous pouvons profiter pour obtenir des évidences orales à travers des sources narratives, par exemple des chroniques, des autobiographies, où il y a beaucoup d'interpolations orales, de voix encastrées. Par exemple, il y a aux chroniques, il y a des harangues, il y a des discours qu'il faut profiter pour une approche orale. Lorsque quelqu'un écrit les mots dits, nous pouvons dire qu'il y a d'évidence orale. Il y a beaucoup qui écrit, et s'il y a là quelqu'un qui écrit une chronique, il dit, bon, dit, bon, quelqu'un m'a dit, bon, pues, tu peux penser légitimement que nous avons, que ce qui vient, c'est une information orale. Bon, mis à part, il faut parler des sources littéraires, de la poésie, des chansons, des dialogues. Nous recommandons lire à Paul Suntor. Il a écrit même sur la méthode et la théorie pour faire d'histoire de la littérature orale. Paul Suntor, il est proche de Jacques Legoff, collègue et ami. Il est proche de l'histoire des mentalités. Trois livres importants pour profiter toute la expérience avec la littérature orale. 1983, Introduction à la poésie orale. 1984, La poésie et la voix dans la civilisation médiévale. 1987, La lettre et la voix. Toutefois, nous devons n'oublier pas que nous travaillons normalement sur des documents d'archives. D'autres références bibliographiques, d'après mon expérience comme historien oral du Moyen Âge et des temps modernes. Jean Fancina, son bouquin, le titre c'est De la tradition orale et ses deux méthodes historiques, 1967. Aussi, Emmanuel Leroy Ladurie, un bouquin très connu. Montagneux, Villas Occitan de 1294 à 1323. Il a publié ça à Paris l'année 1975. Leroy Ladurie utilise seulement 25 déclarations de témoins. C'est utilisé pour ma thèse de doctorat 204. Mais alors, les 25 déclarations orales qu'il utilise, il l'utilise très bien. Il a profité de ça pour faire le grand livre sur l'anthropologie historique européenne. Bon. Il a trouvé les 25 déclarations dans les registres de l'inquisition de Jacques Fournier. Et alors, Emmanuel Leroy Ladurie, un homme important aussi, de troisième rang, troisième annale de l'histoire de la histoire française des mentalités. Il a écrit, c'est tout à fait extraordinaire. Il a dit, hein, il a dit ça. Un homme, l'inquisiteur, a donné la parole aux villageois. On dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal au Moyen-Âge et au temps moderne que la justice donne la parole aux paysans, à tous. Pardon, à femmes, moi. Mais à tous les hommes, de toutes les classes sociales, pas d'extraordinaire, chers collègues. C'est dommage parce que le roi Ladurie n'appliquait pas la méthode de la histoire orale dans son ouvrage, qui est très important, très, très important pour l'histoire française, pour l'histoire en général des mentalités. Il fait même de la histoire orale sans le savoir. Il est venu en espagnol pour le dire. Par contre, Philippe Soutard l'a fait. Philippe Soutard, il est français aussi. Hein. Dans le livre, il a écrit le livre La légende des camisards, une sensibilité au passé, 1977. Il profite, mon Dieu, il profite seulement 18 déclarations orales. 18. Dans l'an 1708. 18 témoins qui parlent des camisards, de la révolte, des protestants au Languedoc. 4 ans qui a eu lieu 4 ans avant. C'est-à-dire, ils sont des déclarations orales plus près des événements de la révolte. C'est plus intéressant Soutard que le roi Ladurie parce que Soutard amplie, il a écrit un petit manuel dans l'année 1983 qui s'appelle, qui a par titre « Ces voix qui nous viennent du passé ». C'est-à-dire qu'il a un petit manuel. Bon, il parle de l'histoire orale contemporaine, mais aussi de l'histoire orale des temps modernes, médiévales, de tout, un peu, d'une façon générale, qu'il y a pourtant plus de 30 ans qu'il a écrit ça. C'est-à-dire qu'il y a des précédentes pour faire une histoire orale médiévale et moderne, je crois, non? Finalement, il faut profiter de l'expérience de l'histoire orale contemporaine. Mais il faut savoir différencier. Parce que, autant que Moyen-Âge comme au temps moderne, les sources orales sont transcrites dans le passé, pas dans le présent. Dans les présentes, oui. C'est-à-dire, c'est une différence importante parce que l'historien aujourd'hui, il fait l'entrevue et après fait la transcription. Mais pour faire une histoire orale médiévale et moderne, nous pouvons obtenir une entrevue, une sorte d'entrevue et une sorte de transcription. Ancien, non, pas actuel. C'est pour ça que je pense qu'il faut une méthodologie spécifique pour faire une histoire orale antérieure au XXe siècle. Non. En Belgique, pour finir, il faut faire attention à un livre, le soulèvement de la Flandre maritime. Il parle, vous le savez bien, des révoltes en Flandre au début du 14e siècle, qui a créé un grand historien, Henri Pirin. Le livre est publié dans les années 1900 pour débarquer, pour parler de presque l'actualité. En mai 68,
On disait,
sous les pavés, il y a la place, à Paris, pas seulement à Paris. Nous pouvons dire aujourd'hui, sous les lettres, il y a le chant, la vie commune, la oralité. Merci pour votre attention.